On peut contester le terme d'esclavage, mais à l'arrivée, c'était la même chose. On arrivait à des traitements qui étaient équivalents. Les esclaves n'ont aucun droit. Là, il y avait un droit, mais qui était purement théorique.
C'était un vrai bagne, c'était du travail forcé, imposé, avec de l'exploitation. C'était en permanence étaler la morue, la ramasser, étaler, la ramasser, la protéger, l'étaler, et tout ça pendant 6 à 8 mois. Je suis Laurent Girodino, donc j'ai longtemps été journaliste, et je suis, à 60 ans bien passés, un jeune réalisateur de documentaires.
Alexis Gloguin, moi je suis écrivain, bon j'écris depuis très longtemps et bon je n'ai pas fait que ça, j'ai une formation de professeur de philosophie. Les petits graviers, c'était les petites mains de la grande pêche. C'était des jeunes mineurs qui venaient augmenter les effectifs à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre du séchage de la morue. Séchage qui était absolument essentiel pour la conservation du poisson. Mais on va voir que derrière tout ça, il y a une exploitation absolument spectaculaire et assez invraisemblable de ces enfants et de ces adolescents. Et que si l'on en parle si peu aujourd'hui, il y a des raisons derrière tout ça. Mon grand-père a été petit gravier à l'âge de 17 ans, en l'an 1912. On sait qu'il était à Saint-Pierre en 1912, parce que c'est l'année du naufrage du Titanic. Il était arrivé en réalité à Saint-Pierre, donc une semaine avant le naufrage du Titanic. Il a vu le champ de glace qui a coulé le Titanic, ça on en est absolument certain. Alors pourquoi 17 ans? Bon, je veux dire, c'est très curieux, parce que il avait déjà été mousse et novice, hein. Donc ça paraissait une rétrogradation étonnante. Et moi j'ai pensé longtemps qu'il y avait eu une sorte d'année épouvantable sur le plan de la misère qui l'avait poussé à s'enrôler dans une situation un peu désespérée finalement et à retourner en arrière, simplement pour des raisons de survie familiale. Mais en réalité, j'ai consulté des spécialistes du pays Bigoudin, puisque là on parle d'un embarquement de jeunes Bigoudins qui étaient très nombreux, hein, qui étaient plus d'une quarantaine, en 1912. Eh bien, c'était pas une année particulièrement misérable. Et donc, je me suis demandé par la suite si c'était pas tout simplement l'attrait de l'aventure, qui, à cet âge-là en particulier, est quand même très puissant, et qui lui avait donné envie d'aller voir d'autres horizons. Sans évidemment se douter de ce qui l'attendait, quoi. Ça allait de 8 ans à 17 ans, mais plus le temps a passé, plus la moyenne d'âge a augmenté, ce qui était encouragé par les armateurs, hein. Non pas pour des raisons humanitaires, mais parce que les jeunes de 15 à 17 ans travaillaient beaucoup mieux que des enfants de 8 ou 9 ans. Donc c'était pour des raisons de rentabilité, d'efficacité en quelque sorte. Donc, et ces jeunes-là, on le sait parce que on a quand même des témoignages de ces époques. Ils rêvaient beaucoup à l'Amérique, ils lisaient des textes de Jules Verne, de Jack London. En plus, ils avaient souvent envie de quitter quand même leur environnement qui était extrêmement étouffant et qui leur offrait pas beaucoup d'horizons. Donc, il arrivait assez fréquemment qu'ils y aillent avec un peu la fleur au fusil, enfin je veux dire avec un certain enthousiasme. La preuve d'ailleurs, c'était que certains embarquaient clandestinement, ceux qu'on appelait les trouvés, ce qui n'était pas sur les listes, mais qui embarquaient clandestinement à bord. Donc il y avait quand même cette image de quelque chose de formidable qui attendait de l'autre côté de l'Atlantique, et donc la déconvenue était d'autant plus violente évidemment. L'une des origines de la fourniture, entre guillemets, de gravier était la très grande misère de l'arrière-pays breton et le fait que, quand ils restaient à la ferme, ils avaient aussi des vies extrêmement dures. Et dans le cadre de familles nombreuses, où il y avait quelquefois 10 bouches à nourrir, et donc si l'un des enfants pouvait aller travailler comme gravier, ça paraissait une aubaine à la limite à certaines familles, d'autant que les recruteurs et recruteuses faisaient miroiter des choses assez mirifiques. On faisait croire qu'ils allaient gagner vraiment de l'argent, qu'il y avait une sorte d'Eldorado de l'autre côté de l'Atlantique. Et comme ils n'étaient pas au courant, puisqu'ils étaient totalement coupés du monde maritime, en fait, ils pouvaient très très facilement se faire tromper à ce sujet-là. Alors évidemment, dès que les enfants arrivaient sur place, ils déchantaient vite. Là, le choc était grand, quoi.
On faisait miroiter aux parents de ces enfants, de ces ados, un genre d'ascension sociale potentielle. C'est-à-dire que passés par cette saison pénible pour aller faire sécher le poisson, ils devenaient inscrits maritimes dits provisoires. Donc on leur faisait miroiter la possibilité de devenir inscrits maritimes définitifs, donc de pouvoir embarquer sur les bateaux. Et même encore mieux, c'était un peu le Graal, pouvoir peut-être, pourquoi pas, arriver dans la marine nationale. Donc voilà, c'était un vecteur d'ascension sociale. On leur promettait aussi, pour ces jeunes qui souvent ne parlaient que le breton, qu'ils allaient rencontrer d'autres populations et peut-être apprendre le français, qui pourrait aussi être entendu à ce moment-là comme une possibilité d'ascension sociale. Il manquait pas d'arguments. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les familles de pêcheurs de la côte n'envoyaient pas leurs enfants faire sécher la morue à Saint-Pierre et Miquelon, parce qu'ils savaient de quelle misère ils allaient être l'objet. Donc, soit des agents des armateurs allaient faire du recrutement, soit et ce qui était peut-être un petit peu plus pervers, des femmes qui tenaient des auberges ou qui allaient elles-mêmes faire la retape à la sortie des foires, à la sortie des églises, même parfois à la sortie des marchés, disant qu'elles étaient prêtes à recruter des dizaines et des dizaines de petits graviers, donc des enfants qui avaient entre 10 et 17, 18 ans, et promettaient par là même un engagement dont elles donnaient une grande partie de l'avance et du salaire pour les mois à venir aux parents. Donc en fait, c'est souvent les parents qui confiaient leurs enfants à ces recruteurs, ces recruteuses.
Et comme les recruteurs étaient très souvent des recruteuses, il y avait un côté plus rassurant pour les mères de famille, qui en dernier ressort étaient souvent celles qui prenaient la décision d'envoyer l'enfant. Et c'était des femmes qui parlaient breton en plus, donc ça semblait être, enfin on faisait confiance, parce qu'il y avait cette espèce de communauté de la langue. Et surtout ces femmes avaient des arguments, les recruteuses. Elles disaient, votre enfant, il sera à terre, ce qui est vrai. Et donc il risquera beaucoup moins de périr en mer. Il va risquer moins d'être enlevé par une lame ou bien de périr dans le cadre de la pêche. Bon, ceci dit, il y a eu énormément de naufrages pendant les transports, hein. Et en fait, dans les contrats, il était bien spécifié que si l'enfant disparaissait, mourait en cours de route, enfin bon, c'est quand même une minorité, hein, eh bien, les familles s'engageaient à ne pas porter plainte. Il y avait des partenariats qui étaient passés avec les orphelinats, comme c'est arrivé par la suite dans d'autres domaines. Mais en réalité, c'est une minorité infime. C'était les familles qui les envoyaient. Bon, alors ça aide à exonérer les familles, parce qu'il y a quand même une certaine culpabilité derrière tout ça. Et c'est aussi d'ailleurs peut-être à cause de cela qu'on en parle si peu aujourd'hui. On peut dire à tout le moins que les responsabilités étaient partagées, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils étaient recrutés ? Il y a un certain nombre de raisons, mais la première, la plus évidente, c'est qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre sur l'archipel et qu'il fallait absolument, en plus du personnel navigant, du personnel des pêcheurs, amener des gens sur les graves, c'est-à-dire sur les plages de pierre où l'on séchait la morue, pour la manutention du poisson.
pour le concret de leur travail, des petits graviers, effectivement, travaillaient sur les grèves des îles Saint-Pierre et Miquelon, surtout des îles Saint-Pierre et de l'île aux Marins, sur lesquelles, après, on pouvait étaler la morue plusieurs fois par été. Pour que la morue soit bien séchée, il fallait lui donner 10 soleils d'exposition. Comme le soleil n'est pas la dominante sous ces climats un peu rigoureux des îles Saint-Pierre et Miquelon, le gros du travail, c'était effectivement de la manutention, mais de la manutention plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, pour l'abriter des pluies soudaines, des brouillards et des brumes qui arrivaient. Les petits graviers étaient le plus souvent entassés à que ce soit à fond de cale des goélettes à l'époque de la marine à voile, que ce soit à fond de cale des cargos qui partaient de Saint-Malo avec entre 1000 et 3000 passagers. Pour moitié, c'était des pêcheurs saisonniers qui allaient travailler sur les goélettes qui restaient basées à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant l'hiver, mais pour moitié, c'était aussi ces petits graviers qui étaient entassés à fond de cale sur leurs paillasses quand ils en avaient, entre des coffres de marins, et sur les goélettes, il se dit même qu'ils étaient tout simplement sur le sel, puisque les goélettes emmenaient du sel pour traiter le poisson qui allait être pêché, pour le conserver, et les petits graviers n'étaient pas strictement à fond de cale, mais par-dessus le sel, sur quelques planches, quoi. Et vraiment sans pouvoir sortir de ces cales pour tout ce qui est hygiénique, et avec parfois une heure dans la journée pour pouvoir aller se balader, prendre l'air sur le pont. C'était vraiment très contingenté. Donc déjà, les conditions de transport étaient déjà détestables, et ça ne faisait qu'augurer de ce qu'ils allaient endurer une fois arrivés à terre pendant des mois.
Le fait qu'ils étaient cantonnés à fond de cale, sauf à sortir pendant une heure par jour, par exemple par groupe de 16 ou 17, ça dépendait un peu des bateaux, eh bien explique aussi les pertes lors des naufrages. C'est-à-dire que lorsqu'un bateau coulait, enfin en particulier les goélettes, les graviers n'avaient aucune chance de s'en sortir. Quand il y avait des rescapés, c'était toujours des gens qui appartenaient à l'équipage et qui avaient le temps de sauter dans des baleinières ou... Donc la plupart des morts de graviers sont liées à des naufrages en fait, hein, soit à l'aller, soit au retour. On peut imaginer que les bateaux pouvaient être surchargés. Hein, et bon, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir.
L'archipel dont on connaît la réputation de climat rigoureux, le Gulf Stream étant ce qu'il est, le climat y est très rigoureux. Et en fait, à la sortie du golfe du Saint-Laurent, tous les vents qui viennent de l'ouest, il n'y a aucun obstacle. Et l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé à peu près 20 km sous la très grande île canadienne de Terre-Neuve, et donc soumis au vent, à de tempêtes assez fortes, même plus fortes que celles qu'on peut connaître en Bretagne ou en métropole, puisque c'est souvent la queue de cyclone qui arrive pour battre les côtes de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au vent, aux brumes aussi en été, des brumes assez constantes, hein, on peut avoir un mois consécutif de brumes au mois de juin.
Et il y a également la question des courants marins qui est très importante dans la mesure où elle influe directement sur la pêche. Donc Laurent parlait du Gulf Stream, mais il y a le courant du Labrador qui descend du pôle Nord directement. Les deux se rencontrent et luttent un peu l'un contre l'autre. Et tout ça fait un brassage de l'eau sur des hauts fonds qu'on appelle les bancs, hein, les bancs de Terre-Neuve. Et ça fait un brassage qui soulève énormément de plancton, enfin qui crée toute une vie marine et qui a fait que ça a été pendant très longtemps les eaux les plus poissonneuses du monde. Et ce sont aussi les courants qui règlent un petit peu le climat à leur façon, parce que quand le courant du Labrador devient plus puissant, ça correspond évidemment à la saison froide et ça repousse le Gulf Stream. Et à ce moment-là, ça fait des boucles puisque les deux courants luttent l'un contre l'autre. Et les boucles peuvent enserrer des îles comme Saint-Pierre et Miquelon. Et moi, il m'est arrivé, au début de mon séjour, j'avais constaté que en septembre, par exemple, la température pouvait baisser de 10 degrés d'un coup, quoi. Et les gens disaient, le courant est passé sous Saint-Pierre. c'est des paysages qui sont à mi-chemin entre la toundra, c'est-à-dire des paysages de mousse, de lichen sur un substrat de roche. Et puis, il y a un peu de forêt aussi, de forêt naine. Bon, pour deux raisons. D'abord parce que le bois a été quand même exploité à un moment et donc la forêt a eu du mal à repousser sur l'île de Saint-Pierre en particulier. Et puis d'autre part parce que le vent est sans doute ce qu'il y a de plus violent et de plus difficile à supporter. C'est pas les températures dans l'absolu, c'est vraiment le vent. Et le vent décapite les plantes qui osent monter un peu trop haut. Et donc on est dans une sorte de forêt naine de conifères, d'épicéas et de sapins, et dans laquelle on avance. Et c'est assez rare de marcher sous les arbres. On dit qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, on marche sur les arbres.
L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est le seul exemple de végétation, de forêt boréale en France.
Les journées étaient très longues. Ça commençait souvent avant le lever du jour, vers 6-7 heures du matin. Après, ils avaient du café. Enfin, même la question du café posait problème, parce que quelquefois, ils en étaient un petit peu privés. Et ça pouvait durer jusqu'à 10 heures du soir. Donc, c'était des journées éreintantes qui pouvaient s'étendre sur la semaine, sur 7 jours. En fait, normalement, ils avaient le dimanche matin. Mais c'est peut-être pas tout à fait vrai toujours. Ils pouvaient être sur la grave, mais ils pouvaient aussi se livrer à d'autres tâches, parce que on les utilisait à d'autres tâches, en particulier quand il faisait mauvais. Ils ne restaient jamais inactifs. Les conditions étaient très très dures, pas seulement à l'arrivée où c'était terrible. Ils devaient être saisis d'une forme d'épouvante, à mon avis, en voyant parce qu'ils étaient mis au travail tout de suite. Et par la suite, évidemment, là interviennent d'autres choses. Ce sont les blessures, tous les problèmes de santé qu'ils rencontrent, parce qu'ils vivaient penchés constamment. Ils portaient des charges extrêmement lourdes qui pouvaient dépasser 100 kilos à porter à deux. Et donc, il y avait les problèmes de dos, il y avait les problèmes de mains qui étaient extrêmement abîmés par le froid, par le sel, par les piqûres d'arêtes de poissons qui demeuraient dans la chair des poissons et qui gonflaient à tel point qu'ils ne pouvaient plus plier leurs phalanges et qu'ils étaient guettés par le panari et puis que le moindre choc faisait saigner la main. Et donc, ils étaient les pieds et les mains dans l'eau glacée. Et au bout d'un moment, les pieds et les mains s'engourdissent. Hein. Donc, il pouvait y avoir des risques de chute, voire de noyade, parce qu'il faut voir que on n'est pas du tout dans une ambiance de plage de sable. Et donc, ce sont des plages de galets très inclinées, dans lesquelles il faut laver le poisson et le dessaler. Et donc, outre le froid, il y a aussi cette vigilance permanente qui est nécessaire, quoi. Donc, c'était très, très dur. Hein. À la fin de la saison, physiquement, c'était assez terrifiant. J'ai lu quelque part que quelquefois, certains se mettaient à genoux pour travailler parce que quand on est à genoux, on ne peut pas s'endormir. C'est la seule position qui évite l'endormissement. Le soir, les témoignages le disent, et ils se jetaient sur leur grabat. Ils s'endormaient aussitôt. Il y avait assez peu de communication entre eux parce qu'ils étaient beaucoup trop fatigués. Et ça, c'était aussi relativement volontaire de la part des armateurs de faire qu'ils ne puissent pas trop communiquer, parce que si on communique beaucoup, ben on échange et puis on finit toujours par dire non, par se révolter. Et il valait mieux qu'ils soient fatigués, quoi. On peut dire que le travail excessif est la meilleure des polices.
Le logement des petits graviers, ça fait partie des mauvais traitements qui leur étaient infligés. Quand ils arrivaient, ils découvraient qu'ils allaient être logés dans ce qu'on appelait des habitations, qui est un terme qui est aussi utilisé dans les Antilles pour loger les esclaves. Hein. C'était exactement le même terme, utilisé par souvent les mêmes armateurs. Ils étaient logés en fait dans des dortoirs qui étaient sur plusieurs niveaux de couchage, des paillasses imbibées d'humidité qui n'étaient pas changées pendant plusieurs mois. Ils étaient tellement fatigués qu'ils dormaient le plus souvent dans leurs vêtements, donc l'hygiène était déplorable, les habitations maisons étaient souvent ouvertes à tous les vents, rarement chauffées, avec des toits rarement imperméables par lesquels pouvait s'infiltrer la neige fondante. Donc vraiment, c'était des conditions très déplorables. Au bout de plusieurs semaines de travail, en gardant les mêmes vêtements, dans ces conditions de logement, d'humidité, de rester dans la crasse, et souvent la crasse des vagues successives qui avaient occupé ces logements, il n'y avait pratiquement aucune hygiène, quoi. Donc les vêtements partaient en lambeaux, les vêtements pourrissaient, et revenaient souvent comme des... On a pu utiliser l'expression de clochard quand ils revenaient en France dans cet état.
Souvent, ils étaient nourris de têtes de morue ou bien au courbouillon, par exemple, avec un peu de légumes par-dessus. La nourriture était peu abondante et absolument pas variée. Tout ça pour faire des économies, évidemment, les économies étant celles que faisaient les maisons d'armement. Et donc, ils avaient juste assez à manger pour pouvoir travailler sans être acculés à la famine, quoi. Il y avait souvent une collusion entre les armateurs ou les gérants d'armement, enfin, puisque les armateurs n'étaient pas toujours présents sur place, mais et les pouvoirs publics, par exemple les affaires maritimes. Il y avait une grosse hypocrisie dans la mesure où les inspections qui étaient imposées par le règlement, quand même, hein, étaient annoncées très longtemps à l'avance, quelquefois 3 semaines à l'avance, et se faisaient très souvent avant le début de la saison de pêche. C'est-à-dire qu'en fait, quand les inspecteurs arrivaient, tout était impeccable, et du coup, les rapports sont presque toujours favorables. Et donc c'est extrêmement trompeur. Tant qu'on ne dépasse pas les bornes d'une manière trop visible de complicité entre les différents pouvoirs, en fait. Et ça, c'est vrai pour la nourriture comme pour l'hébergement.
Distribuer de l'alcool aux enfants, c'était pour supporter les rigueurs climatiques, l'humidité, le froid, et supporter aussi la promiscuité et les conditions de travail qui étaient quand même très dures. Hein. Donc un boujaron d'eau de vie le matin, un boujaron d'eau de vie le soir, il n'y avait rien de mieux pour les alcooliser. Et puis ça peut-être qu'en leur donnant peut-être un coup de fouet pour les réchauffer, ça atténuait toute velléité de révolte contre les mauvais traitements.
C'était de l'alcool qui était homologué pour les marins adultes et qui titrait 42 degrés, l'équivalent du whisky. Mais il y avait aussi de l'alcool de contrebande qu'amenaient certains marins sous le manteau et qui pouvait titrer entre 90 et 100 degrés. Et les enfants l'achetaient. Le peu d'argent qu'ils avaient, très souvent, passait dans l'achat d'alcool. Et c'était aussi un prétexte ou une raison pour les mater davantage. On prenait ce prétexte-là quelquefois pour les emprisonner, par exemple. Alors que, évidemment, l'alcool était fortement encouragé, mais ça servait aussi, éventuellement, comme outil de répression.
C'était le bagne des enfants bretons à Saint-Pierre-et-Miquelon, premier épisode. Avec l'écrivain Alexis Glouaguin et le réalisateur Laurent Giraudino, auteur du documentaire Petit Gravier de Saint-Pierre. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.